When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est ma petite chronique IA traditionnelle, accoutumée. Ça fait longtemps que je voulais en parler.
Ouais, j'ai très hâte.
Et n'ai pas trop hâte parce que c'est pas si évident comme sujet.
Ah mais c'est vu.
Je suis pas
assez
préparé.
Justement.
Et donc je serais curieux d'avoir aussi à la fois vos avis et celui du chat parce que ça va m'intéresser. Je vous propose de commencer avec un tweet. Til, si tu arrives à le choper, c'est le tout premier. Ça fait quelques temps que, sur Twitter, des gens commencent à se plaindre d'un phénomène assez étrange. Il semblerait que ChatGPT, en particulier GPT-4, soit en train de devenir débile. Même plus précisément que ça, soit en train de devenir paresseux. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous l'utilisez une fois, de temps en temps, tous les deux mois, vous allez vous détecter a priori aucun changement, c'est-à-dire que ça reste un très bon assistant. Ne crachons pas dans la soupe, il y a 2 ans, on aurait complètement halluciné de voir ce genre de truc. Donc voilà, ça reste un très bon chat. Mais des gens qui l'utilisent très souvent, et moi personnellement, je vais vous le dire, j'ai fait cette observation, on a l'impression que le modèle est moins bon qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Alors ça pose pas mal de questions, Est-ce que déjà, c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a des observations objectives, on va dire, qui pourraient nous laisser penser que oui? Ou est-ce que c'est simplement des questions psychologiques où on a l'impression qu'il est moins bon, mais en fait, c'est plus compliqué que ça? Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le penser? Est-ce que c'est conspi, en gros, ou est-ce qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'un modèle puisse être moins bon avec le temps?
Est-ce que c'est une take un peu éclatée ou non mais
exactement
ou un biais de confirmation.
C'est genre sur l'IA, faut beaucoup se méfier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Et on va voir que c'est très compliqué. Enfin, la réponse est très compliquée.
Démêler le.
Et en même temps, vous allez être étonné parce que en fait, il y a potentiellement des vraiment très bonnes raisons qui expliqueraient que ça soit vraiment plus nul. Enfin, que les versions récentes soient moins bonnes que celles d'il y a 6 mois, 1 an, etc. Mais n'allons pas trop vite. Regardons. Déjà, les premiers exemples qu'il a partagés. Alors, ça va être vraiment très petit. Si tu descends un petit peu sur les trucs plus bas. Voilà. Lui, ce qu'il précise, c'est que c'est pas tellement une question de devenir stupide, c'est-à-dire de ne plus arriver à résoudre des tâches, mais c'est de manière générale une question de comportement. C'est-à-dire que là où il y a peut-être 6 mois, 1 an, on pouvait lui demander de rédiger un script complet. Je vais prendre un exemple avec le développement parce que c'est assez parlant. Tu lui demandes un script Python qui te fait une tâche extrêmement complexe. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais en train d'apprendre Swift et je lui demandais de faire des tâches vraiment très complexes sur le GPU du Mac et il me pondait des scripts en Swift. Et il me générait des shaders et tout ça produisait à la fin du code long. Complet et vraiment il manquait rien quoi. Et il semblerait qu'on soit passé de ça à actuellement où si on regarde dans quelques exemples, on voit que il est constamment en train de nous demander de faire le travail.
J'ai remarqué ça un peu. J'ai l'impression
remarqué ça
un peu la flemme. Tu
exactement.
Lui demandes de faire un code, avant il te le faisait, maintenant il t'explique comment tu peux y arriver, il te met des petits extraits, mais c'est à toi d'assembler le truc.
Exactement, et il passe son temps à faire des je t'ai fait un brouillon rapide. Mais évidemment, l'implémentation demanderait plus de travail. Et on a l'impression collectivement qu'il faisait moins ça avant, où il va te générer ton code Python et il va te dire ici, il faudrait implémenter tel truc. C'est comme si genre t'avais un stagiaire ou un truc comme ça, tu lui demandes hey, tu peux faire ça en Python? Et là, tu lis le code, il dit alors là, cette partie, il faudrait implémenter une connexion à la base de données.
Tu peux me faire un gâteau, tiens, voici les ingrédients. Quoi.
Je t'ai demandé le truc.
Un peu comme si t'étais obligé de faire une conversation. Quand tu veux faire un truc, fais OK, fais ça. OK, mais si je veux vraiment le faire, t'as 5-6 messages. Alors qu'il y a quelques mois, tu mettais ta requête, C'était pas une conversation, c'était un message, une réponse, et c'était bon, quoi.
Exactement. Et il y a des gens qui ont fait des tests entre GPT-4, par exemple, et d'autres modèles. Typiquement des modèles open source. Moi, j'en ai vu notamment avec Mixtral, donc les tout derniers modèles open source qui rivalisent de qualité avec GPT-3.5, etc. Donc, il est censé y avoir quand même un gap d'intelligence, mais quand tu regardais du point de vue de la paresse, eh ben, effectivement, la distinction était frappante. C'est-à-dire que d'un côté, t'avais Mixtral qui te donnait par exemple, tu lui demandais de coder un bot Discord. Donc voilà, on sait que c'est une tâche qui est relativement complexe, mais quand même suffisamment abordable pour que un LLM soit en mesure de le faire. Bon, bah, Mixtral d'un côté te codait ton bot Discord en entier, te donne des pistes pour résoudre ton problème, des perspectives de modifications hyper précises, des noms de librairies spécifiques en Python, des choses comme ça. Et à côté, tu vois GPT-4 qui te fait un bout de script tout nul, avec du blabla et des généralités en mode « Oui, il est complexe de générer des assistants avec du code. Il faudrait apprendre la programmation en Python pour ça. » Je ne t'ai pas demandé de me faire une lecture, en fait. Je t'ai demandé de générer du putain de code. Et effectivement, comme tu le dis, Mathieu, c'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'il suffit de le reprompter, de lui demander « Non, non, mais j'aimerais bien le code en entier. Non, mais implémente telle ou telle partie toi-même et tu finis par y arriver. » Donc, comme tu le disais justement, c'est comme si il avait un désir de raccourcir ses réponses pour être dans un mode plus conversationnel et à la fin des fins, tu finis par obtenir ce que tu veux. Si on redescend un peu dans le thread, il avait quelques takes intéressantes.
Moi, du coup, j'ai une hypothèse qui me vient, peut-être après.
Ouais.
Ok.
Pardon. Voilà. Donc, la première hypothèse qui a été émise, c'est que c'est plutôt un changement de comportement qu'un changement de compétence. Et qu'en fait, on attribue cette perte de performance à un fait qu'il devienne plus débile. En fait, c'est pas qu'il devient plus débile, c'est juste que il a changé, en gros. Et notamment, ça pourrait être justifié par l'apparition des nouveaux GPTs. Donc, vous savez, ces assistants qui sont pas du tout des fine-tunes, mais qui sont des versions un peu augmentées de GPT-4, où les utilisateurs comme vous et moi peuvent lui rajouter des instructions spécifiques dans le système ou des fichiers qu'il aura à disposition, comme un PDF ou une feuille Excel avec votre base de données et qui pourra vous aider à répondre à vos questions. Eh ben, peut-être que les versions actuelles de GPT-4 ont été plutôt guidées pour suivre mieux les prompts système. Donc, on pourrait s'imaginer qu'un LLM, il a plusieurs types de compétences. Il pourrait avoir une compétence de créativité, par exemple, une compétence de générer du code valide. Il pourrait avoir une compétence de suivre des instructions à la lettre. Et c'est pas forcément intuitif, mais c'est pas nécessairement les mêmes compétences en réalité. C'est-à-dire que tu peux être pas super malin, c'est-à-dire ne pas avoir une capacité de raisonnement et de réflexion développée, mais avoir une capacité de suivre à la lettre des instructions. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, et ça me fait penser il y a des parents qui jouent à ce jeu où tu demandes à un enfant de te dire, vas-y, dis-moi comment je mange un yaourt, et tu dois me décrire toutes les étapes. Et en fait, tu décris jamais toutes les étapes. Un peu comme s'il était devenu trop précis et que l'humain est en fait par nature imprécis et que du coup il y a un décalage qui s'est créé entre GPT
et de l'intelligence intuitive versus ouais. Qui suivrait à la lettre. Et en tout, peut-être
par exemple je prends mon exemple, si tu oublies de dire ouvre le frigo, ça c'est bête mais parce que inconsciemment on le fait, et ça m'a fait penser à ça.
Je pense que c'est une bonne analogie pour décrire ce qui est une piste d'explication qui serait que un modèle qui est super efficace à suivre des instructions précises, eh ben c'est objectivement très utile. C'est-à-dire que tu prends certains GPT, par exemple ceux qui peuvent se connecter à Internet ou exécuter du Python dans une sandbox, eh ben ceux-là effectivement, OpenAI avait des bonnes raisons de pousser leur capacité à suivre des instructions à la lettre. Mais si ça se trouve, on est un peu perdu au change, en gros, dans leur autonomie et leur capacité à se débrouiller, à faire des très longues générations valides avec un petit prompt. Donc, on peut, une autre analogie, c'est de dire, à suivre très efficacement des très longs prompts, c'est pas impossible qu'on y ait perdu avec des prompts plus courts et qui t'auraient demandé, entre guillemets, un peu plus d'intuition. Ou, voilà. Donc ça, c'est la première piste.
Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que du coup, peut-être qu'on peut compenser légèrement en essayant d'être un peu plus précis dans ce qu'on lui dit.
Si jamais c'est véridique, eh ben, une piste de solution, c'est effectivement de se créer des prompts systèmes qui vont guider la manière dont on veut que notre assistant se comporte. Donc effectivement, j'en vois pas mal se partager sur Twitter. Si vous en avez, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Mais des prompts systèmes de gens qui disent, OK, ben, la version actuelle de la manière dont tu t'exprimes ne me plaît pas. Et donc, moi-même, je vais devoir écrire à la main. Tu dois t'exprimer de manière détaillée. Cut the crap. Arrête de me raconter de la merde. Je veux du code en entier. Et donc, c'est effectivement un moyen de contourner le souci. Surtout que les gens se sont rendus compte que suivant l'intermédiaire qu'ils utilisaient avec les serveurs d'OpenAI, ça se comportait pas forcément de la même chose. Il y a des gens qui ont essayé sur la version ordi de ChatGPT versus la version mobile et ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Si vous ne le saviez pas, en fait, la version mobile de ChatGPT a un prompt système différent.
D'accord.
En gros, ce qu'il y a en haut du chat qu'on ne voit pas est modifié suivant le device qu'on utilise.
Waouh. Ouais. J'avoue que je ne savais pas, j'étais passé à côté de ça.
Et en gros, sur l'appli ChatGPT, il semblerait que OpenAI ait demandé volontairement à GPT-4 de faire des réponses plus courtes. Et j'imagine que la réflexion, c'est... Bah, les gens sont sur mobile et donc ils veulent de l'info plus dense.
Oui, une info peut-être rapide.
Et
justement.
Puis c'est bête, mais t'es comme ça dans la rue, tu vois. Pendant 10 ans sur ton téléphone, enfin.
C'est clair. Ouais. Je pense qu'il y a une autre explication qui est valide. C'est une histoire de coût, notamment sur les versions mobiles de OpenAI. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des modèles de discussion. Donc en fait, ils ont intégré Whisper, donc pour comprendre les instructions vocales. Et leur nouveau modèle de génération de texte, de text-to-speech, c'est très probable que tout ça leur coûte assez cher, mine de rien, et que du coup, réduire l'output, réduire la taille des messages générés par ChatGPT,
ça leur fait
économiser de la génération vocale, en fait.
Tu veux dire qu'il y a un financier un jour qui s'est pointé dans les bureaux et qui a fait « Bon,
les gars,
je sais que vous vous amusez bien, mais
il y a un moment,
voici les chiffres, faites quelque chose. »
Il y a un moment, il faut quand même pas déconner. Bon, ça, ce sont en fait des explications qui permettrait d'expliquer pourquoi on a le ressenti que la qualité baisse, mais qu'en fait, elle ne baisserait pas vraiment. Mais en fait, il est possible que même au niveau de la qualité, c'est-à-dire que même au niveau du modèle, donc c'est-à-dire le fichier qui tourne sur le serveur d'OpenAI, celui-là même qui, on le sait, est modifié régulièrement à des versions mises à jour tous les mois, etc., il est possible qu'il y ait des drops en qualité. Pour ça, je vais vous parler d'un autre modèle qui existe, qui est très connu, qui est celui d'Anthropic. Donc Claude, que vous connaissez peut-être.
Ouais.
Qui est actuellement, on va dire, ce qui se rapproche le plus d'une concurrence à peu près potable de GPT-4. Eh ben, si tu veux... Alors, j'aimerais bien retrouver le leaderboard. Le problème, c'est que je t'ai pas mis le lien. Merde, comment je vais le retrouver? En fait, il faudrait chercher le leaderboard... je crois, de Hugging Face, mais pas celui qui est basé sur des benchmarks, mais celui qui est basé sur des votes humains. Tu sais, en gros, il y a un système de... Je vous en avais parlé d'ailleurs, un système via Elo qui permet... Donc, les benchmarks, c'est assez limité comme manière de noter les LLM. Et donc, un autre type de leaderboard, de classement qui a été mis en place, c'est un système de Elo, comme aux échecs, où des utilisateurs votent quel est le truc qu'il préfère. Et bien justement, j'aimerais vous montrer un truc, si jamais...
Peut-être dans le chat, si vous avez la bonne requête Google à nous donner, parce que je crois que les liens ne sont pas acceptés.
Les liens ne sont pas autorisés, mais si vous nous aidez à retrouver ce lien...
Ou alors le lien avec des espaces.
Ça m'aiderait énormément.
Et alors moi, du coup, j'ai une hypothèse qui me vient là, quand tu me dis, ok, c'est ça ?
Oh, le beau gosse. Bien joué. Du coup, j'ai un truc à vous montrer à propos de ce LLM Claude. Si vous regardez ce leaderboard, donc qui montre les plus gros modèles, donc les propriétaires sont tout en haut évidemment, parce que pour l'instant ils ont quand même un avantage sur les modèles open source, mais on peut voir tout en bas qu'il y a i34b, Tulu, il y a quand même, ça commence à se défendre, Mixtral qui est un peu plus haut. Mais si vous regardez les tout meilleurs, est-ce que vous observez quelque chose d'un peu étrange?
Il y a plusieurs versions de GPT-4.
Alors oui.
Tu l'as déjà dit.
Pourquoi
fois,
mais... Non, mais c'est pas grave. Pourquoi, en fait, elles correspondent à différentes versions à un temps donné. C'est-à-dire que GPT-4 03-14, c'est la version qui date de mars 2023. 06, c'est la version qui date de juin 2023. Et donc, on peut voir déjà, la première chose, c'est que elles ne sont pas ordonnées par ordre chronologique.
Oui, ouais. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a... Et après, sur les ceux de Claude...
Ah oui, ok, oui, c'est vrai, maintenant ça me saute au-dessus. Claude 2 est en dessous de Claude 1.
Alors, non, Claude 2 est en dessous de Claude 1.
Et Claude 2.1,
et Claude 2.1 est en dessous des deux autres.
Alors, j'ai peut-être une autre hypothèse, est-ce que ça a à voir avec la censure des modèles et des choses comme ça?
Exactement. Alors je vais venir dessus parce
que...
Il a dit le mot. On va y venir, mais c'est quand même assez dingue. Donc, pour expliciter, ça veut dire que les gens ont en moyenne trouvé des modèles propriétaires récents comme étant moins qualitatif que des anciens. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand même. C'est-à-dire que t'as des équipes qui ont des millions de dollars de financement, des centaines de personnes qui bossent sur des modèles. Ils passent des mois et des mois à créer des nouvelles versions qui sont moins bien notées que des trucs sortis il y a un an et demi.
Et c'est sur tous les use cases, pas seulement le code, c'est de manière générale?
C'est de manière générale. Une appréciation humaine. Alors attention,
c'est humain là.
Exactement. Là, c'est une appréciation humaine. C'est un hello. Alors, faut mettre un petit bémol, c'est que les humains sont pas forcément bons à détecter des réponses de qualité. C'est-à-dire que tu peux avoir une réponse qui visuellement te plaît dans le style, etc. Mais en fait, dans les données, de manière objective, elle ce serait moins bien. Mais quand même, ça veut dire que en un an et demi, Anthropic et OpenAI ont régressé. C'est quand même dingue quand on y réfléchit. Et alors, comment
donc,
c'est possible?
C'est factuellement, ça serait vrai.
Là,
via ce tableau, on se dit ok.
Là, je trouve que c'est quand même une preuve qui est relativement objective. Je vous l'ai dit avec un petit bémol, c'est pas parfait, mais relativement objective que c'est pas une hallucination. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Si vous avez eu cette impression vous derrière votre interface, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que collectivement, on est tous d'accord en fait.
Et est-ce que si on prend des benchmarks logiciels cette fois-ci, pas humains?
Là, c'est plus compliqué.
Ok.
Là, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant comme question parce que le problème des benchmarks logiciels, c'est que on en a parlé effectivement dans la dernière chronique sur Mistral, ils sont intrinsèquement faillibles parce qu'il y a toujours des problèmes de contamination et du fait que un benchmark va se retrouver dans les données d'entraînement d'une manière ou d'une autre. Et globalement, on se rend compte que tu peux avoir le meilleur modèle qui va performer le mieux sur les benchmarks si ça se trouve dans le vrai monde, en fait, sur les serveurs d'une vraie boîte qui en a besoin pour son appli. En fait, il va être éclaté au sol à comparer un modèle qui performerait moins bien. Ouais, c'est pour ça que...
Si tu commences à entraîner ton modèle pour qu'il soit bon dans les benchmarks, c'est totalement biaisé.
C'est la fin du monde, exactement. Donc... Qu'est-ce qui expliquerait ça? Cette régression sur un an et demi? Parce que quand tu regardes la courbe de progression sur l'année d'avant, t'as l'impression qu'on va atteindre l'intelligence générale l'année d'après, tu vois, qu'on est au bord du gouffre. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Et on a plutôt une régression là sur un an.
Moi, alors, pas partout,
en open source, c'est pas le cas du tout, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Et si ça se trouve, ce que je vais dire va être invalidé dans les deux mois qui suivent quand GPT-4.5 pourrait sortir, mais est-ce que tu as une hypothèse? Oui.
Mais enfin, c'est pas une hypothèse, c'est juste un constat. Je me dis, qu'est-ce qui a changé entre ChatGPT il y a un an et ChatGPT maintenant? Et je me dis, ben, en fait, il se nourrit des retours qu'on lui fait nous. Et est-ce que, en fait, vraiment, j'en sais rien du tout. C'est pas nous qui l'entraînons mal par nos évaluations des réponses qu'on fait sur ChatGPT. Là, je parle vraiment de ChatGPT, je sais pas comment en Claude, mais je sais qu'ils prennent des feedbacks sur comment on a trouvé la réponse, nos conversations avec... Si ça se trouve, c'est juste nous, on est trop mauvais pour interagir avec ChatGPT, et en fait, il était un peu pur à sa sortie, et du coup, en fait, il était vachement efficace, et il est devenu influencé par l'humain, et du coup, c'est devenu une merde humaine.
Alors, non mais, écoute-moi bien, ça, c'est une des théories les plus solides actuellement qui sont avancées par les gens.
Oh, je suis refait.
Qui pourraient expliquer ça.
Je suis refait.
Alors, je vais revenir dessus. En gros, il y a trois grandes théories qui pourraient expliquer ça. Donc la première, c'est celle dont tu as parlé. À savoir, si vous avez remarqué, sur l'interface de ChatGPT, une fois sur 20 à peu près, on va vous demander de noter la réponse d'OpenAI. Donc, Vous avez comme ça une interface avec deux réponses possibles et vous devez dire laquelle vous préférez.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Effectivement, il y a des bonnes chances que ces données-là soient utilisées à des fins d'entraînement pour améliorer, pour rapprocher l'IA théoriquement de ce que l'humain, l'utilisateur final, voudrait.
Ça serait logique qu'il le fasse, en tout cas.
Ce serait logique, ça paraît comme une excellente idée. Mais effectivement, il y a pas mal de gens qui disent que si ça se trouve, ça a participé à lui faire baisser sa qualité. Puisque nous, humains, on serait des mauvais profs, en fait. On serait ouais, pas en mesure d'identifier objectivement quelles sont les réponses les plus informatives, les plus utiles. Et donc, voilà, ces sélections-là ont petit à petit fait dévier ChatGPT de son intelligence originelle, on va dire, pour arriver à ça aujourd'hui. La deuxième explication possible, et ça rejoint ce que tu disais, Rémi.
Je me demandais, est-ce que c'est pas OpenAI qui a changé ses objectifs? Parce que nous, on évalue sur certains critères, mais c'est quoi la réalité chez OpenAI? C'est quoi leur objectif? S'ils continuent à mettre à jour, ils ont leur propre...
Moi, je pense quand même que, de manière générale, faire des réponses utiles et pas paresseuses, ça devrait être leur objectif. Mais si c'est pas le cas, je sais pas ce qui se passe.
Ils ont plein de problèmes en ce moment de pas citer des articles de presse parce que malheureusement, même si c'est d'excellentes données, bah, ils ont des problèmes de droit avec, ils ont des problèmes de... ils sont dans plein de soucis juridiques où ils sont dans la sauce à chaque fois pour des sorties et ils sont obligés de compenser.
Moi, je pense que ce serait, il y a un décalage dans le timing. Et que ces actualités récentes sont trop tardives par rapport à ce qu'on observe en qualité, je trouve, pour que ce soit une bonne explication. Mais la deuxième possibilité, c'est ce que tu disais, à savoir la lobotomisation des modèles propriétaires. Un truc que les gens savent, c'est que si on demande à ChatGPT de faire des trucs illégaux, mais pas que illégaux justement, qui ne serait-ce que par une certaine interprétation un tout petit peu borderline et qui pourrait éventuellement vexer un Roumain à l'autre bout de la planète pour je ne sais quelle raison, eh bien, il va vous dire « je ne peux pas le faire, car je suis un modèle d'IA responsable ».
Il est devenu très puritain, enfin, je ne sais pas si c'est le mot pour une IA, mais...
si, je pense que c'est un bon mot, effectivement. Et ceci existait dès le début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc Reinforcement par Human Feedback, donc de...
Reinforcement Learning Human Feedback, attends.
Ouais, comment tu traduirais ça? Donc c'est du renforcement d'apprentissage par feedback humain.
Supervisé par l'humain, ouais.
Exactement. Et c'est la technique qui a un peu débloqué les modèles de langage. Donc faut pas cracher dessus parce que c'est vraiment le truc qui a permis à ChatGPT 3.5 notamment d'avoir une montée en gamme aussi importante entre la GPT 3 et la version GPT 3.5. Donc c'est vraiment un truc qui est positif, qui est on utilise des cohortes de gens pour évaluer via un processus extrêmement codifié les réponses de ChatGPT.
Il y a un petit côté crash test aussi. Je sais que quand ChatGPT a été release, il y avait quasiment aucun filtre. Tu pouvais demander comment fabriquer une bombe nucléaire. C'est pas de souci, voici les ingrédients, on t'a besoin de tout. Et on sait que très rapidement, ils ont fait des mises à jour et que c'était de plus en plus dur de trouver des façons de contourner ces restrictions, etc. Donc on sait qu'ils...
Bah c'est ça, justement. Là où j'en venais, c'est que sur les premières versions de ChatGPT, il y avait déjà un système de feedback humain qui lui faisait refuser certaines requêtes, etc. Mais ce qui est probable, la théorie qui a été émise et qui se vérifie honnêtement assez facilement, c'est que petit à petit, à chaque fois que globalement quelqu'un arrivait à demander à ChatGPT à lui faire générer un output qui ne lui plaisait pas, probablement qu'il allait gueuler quelque part sur Twitter ou quelque chose comme ça, et que OpenAI petit à petit a dû mettre de plus en plus à jour son système de renforcement par feedback humain pour intégrer chaque petite gueulante faite par chaque personne qui n'était pas contente. Et petit à petit, en anglais, ils appellent ça des safeguard rails. Guard rails. Je sais pas comment.
Ouf.
Je leur dis.
Des garde-fous.
Ouais, bien joué.
Oh, oui. T'es chaud.
Magnifique. Donc petit à petit, ils ont dû rajouter des garde-fous et des garde-fous dans leur modèle de filtrage, et que ça a participé lentement mais sûrement à une lobotomisation d'une certaine manière du modèle. Parce que un truc qu'il faut réaliser, c'est que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais on rend juste le modèle plus safe, finalement. C'est bien d'être safe, n'est-ce pas? Eh ben, en fait, il faut réaliser qu'il y a un vrai trade-off entre la sécurité et la performance. Et ça, ça s'observe dans absolument tous les benchmarks. C'est-à-dire que si tu prends tous les modèles open source, en général, ce qui se passe, c'est que sort une version officielle. Par exemple, Meta, quand ils ont sorti Llama, ils ont sorti une version qui s'appelait Llama Chat avec. Donc, c'est le modèle de base, c'est-à-dire le modèle de fondation, comme on dit, sur lequel ils ont entraîné le côté chat assistant. Llama a fait ça. Mistral, pareil. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne suis plus sûr si dès le début, il y avait une version instruct ou chat, en général, ça s'appelle comme ça. Mais ce qui se passe à chaque fois, c'est que la version officielle, donc safe, se fait instantanément exploser par toutes les versions non censurées. Donc, dans la communauté open source, on s'est rendu compte de ça assez rapidement, et donc des datasets non censurés ont été créés, où globalement ils ont enlevé toutes les réponses. En tant qu'une IA responsable, je ne peux pas vous faire une bombe. Ils ont enlevé tout ça, ils ont créé des datasets clean, non censurés, et vraiment ça n'y coupe pas. À chaque fois, ça explose le modèle officiel censuré. Donc c'est une explication qui n'est pas en mode complotiste de genre pas content parce qu'on leur laisse pas créer des trucs horribles. C'est pas ça. C'est globalement, il y a de très bonnes raisons de croire que de manière générale, les performances sont dégradées dès que tu mets des filtres trop importants.
Ça doit être un challenge énorme chez OpenAI. On sait qu'à l'époque où Sam Altman s'est fait virer puis est revenu, ils avaient notamment des débats sur c'est quoi l'objectif de l'IA, est-ce qu'il faut qu'elle soit performante et qu'on pousse à fond pour que ça se vende. Enfin, est-ce que c'est un objectif financier ou est-ce qu'ils veulent la jouer safe? Il y avait une grosse partie de l'équipe qui était là en mode non mais la priorité c'est d'avoir des modèles bien safe qui donnent des données justes et qui sont pas dangereuses.
Et ben c'est là où justement les différentes boîtes pourraient avoir différents objectifs et vous risquez d'être intéressé par différents modèles suivant vos objectifs. Et en fait pour moi l'avis le plus raisonnable là-dessus c'est ce que fait Mistral. Ou en gros, quand tu publies des modèles open source, ce que fait Mistral, mais c'est ce qui se passe actuellement dans la communauté open source. À savoir, les entreprises genre Meta, Mistral, etc., ils mettent à disposition des poids qui ne sont pas censurés. Parce que leur audience, ce sont des développeurs. Et en gros, ils mettent la charge de la responsabilité sur, à la fin, les développeurs de faire en sorte que leurs utilisateurs leur demandent pas des trucs illégaux ou parfaitement immoraux. Et en fait, il y a une confiance qui est mise dans les utilisateurs avertis pour les laisser eux-mêmes gérer leur sécurité. Ce que ne fait pas du tout OpenAI, et c'est extrêmement énervant. Et vraiment, ça pour le coup, leur cote pourrait être extrêmement plus élevée qu'elle n'est actuellement si jamais ils mettaient pas ça en place. C'est-à-dire qu'en gros, ils se donnent eux-mêmes le rôle moral de vérifier que globalement tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et ce qui se passe à l'inverse dans les communautés open source, c'est plutôt de dire non, on vous fournit des modèles et la seule garantie qu'on vous fait, c'est que c'est les plus performants possibles. Sur la question de la morale et de la sécurité, on vous laisse vous débrouiller après entre guillemets, vous avec vos utilisateurs. Et ce qui correspond aux missions entre guillemets d'une certaine manière de d'OpenAI, on pourrait dire mais oui, mais eux ils mettent en place un produit public et donc c'est normal qu'ils soient safe. Sauf que ils le font de leur API. C'est-à-dire que en gros cette lobotomisation entre guillemets des modèles, elle est effective dans l'API, un truc qui n'est pas utilisé du tout par les développeurs,
etc. C'est intéressant parce que je me souviens au début de tout ça, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisaient justement OpenAI pour faire ChatGPT pour faire des bots et des choses comme ça, qui disaient passer par l'API parce qu'elle a pas les mêmes restrictions que la version web.
Alors, en gros, la différence entre la version d'API et la version web, c'est le prompt système. Donc pour le coup, sur la version d'API, tu n'as pas de prompt système et donc le modèle est un peu moins guidé, un peu moins orienté à te faire des réponses mielleuses. Mais globalement, le modèle de base ne change pas vraiment. La différence, c'est que tu peux accéder à des modèles plus anciens que, c'est-à-dire que tu peux remonter, comme on l'a vu dans les benchmarks, à des ChatGPT de version Mars, etc., qui sont probablement meilleurs que les récents. Mais a priori, c'est la seule différence, malheureusement. Okay. Et ce qui fait que, avant de parler de ça, un autre exemple qui est hyper frappant, dont on s'est rendu compte au bureau, et que je t'ai montré, Rémi, je sais pas si tu t'en souviens, c'est, ça concerne pas le ChatGPT, mais ça concerne DALL-E. Donc DALL-E, évidemment, qui a une API à disposition pour les développeurs pour faire de la génération d'images. Moi, ça m'intéressait énormément parce que Midjourney, qui est un des concurrents les plus sérieux, n'a pas d'API. Donc
toujours pas là ?
Non, ne permet pas aux développeurs d'interagir avec son truc. Je sais pas pourquoi, c'est rageant, mais c'est comme ça. Et donc DALL-E 3 est une des seules actuellement plateformes de génération d'images qui a un niveau extrêmement acceptable et qui soit utilisable via API. Je mets évidemment tous les modèles open source qui sont aussi très bien, mais voilà. Et ben, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que si tu envoies une requête à DALL-E 3 pour te générer une image, déjà, le truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a une étape intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas tu dis « j'aimerais un hacker à capuche » et lui, il l'envoie directement à la génération d'images pour te faire un hacker à capuche. Au milieu, il semblerait, mais alors c'est documenté par OpenAI, hein, qu'il y ait GPT-4, ou enfin une version de ChatGPT, qui passe pour reformuler ce que toi-même t'as écrit. Donc, il y a une explication à ça. C'est pas, attention, c'est pas juste pour faire chier.
L'humain sait pas parler.
L'explication, c'est qu'ils ont entraîné leur modèle sur des prompts très longs, pour qu'ils soient hyper forts à comprendre des scènes détaillées, etc. Et donc, ils ont imaginé ce système en deux étapes où tu donnes ta génération d'images.
Ouais, c'est malin.
Puis, ChatGPT te la complète avec une scène distincte. Donc, au lieu d'écrire « je veux un hacker à capuche », il va te mettre « je veux dans une pièce sombre avec des spots lumineux, un hacker avec un laptop qui ressemble à ça, qui est en train de travailler de manière très mystérieuse, tu vois. » Bon, en gros, il va te complexifier et t'inventer plein de détails pour que ton image, à la fin, elle soit potable. Sauf que j'étais en train de faire mes générations, tu vois, donc je générais plein d'images et plein de trucs. Donc je me dis, je fais un hacker qui fait je sais pas quoi. Et je trouvais quand même que dans mes images, il me fournissait des résultats particulièrement originaux. Notamment, une fois sur deux, j'avais une hackeuse, par exemple. J'avais un hacker, une hackeuse. Après, dans des scènes, parfois je demandais, j'aimerais un hacker qui arrive à bypasser l'entrée, la sécurité d'une entreprise. Et je commence à avoir des nouveaux personnages qui apparaissent dans ma scène. Je n'ai pas demandé, tu vois. Moi, j'ai demandé juste un cœur qui rentre à un endroit. Et je vois des nouvelles personnes. Et par exemple, je vois genre une madame d'Afrique du Nord en hijab, tu vois. Ou après, je vois un Indien ou un...
Très spécifique.
Et très spécifique, exactement. Un Chinois. Et je fais plein de générations, tu vois. Et je suis en mode... Je n'ai pas demandé des affiches de l'ONU. Je veux juste générer une scène simple, tu vois. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que tu peux avoir accès au vrai prompt, donc au prompt que lui il crée en bout de chaîne et te le renvoie en réponse. Je sais pas s'ils ont eu raison de faire ça parce que du coup c'est comme ça que j'ai vu le truc. Mais en gros, il te modifie ton prompt original et sans te demander ton avis, il te rajoute dans ton prompt des attributs sur le genre. La nationalité, etc. Donc tu vois, genre toi t'es en train de générer ton image au calme et en fait t'as des bouts de phrases complets, mais c'est-à-dire que ça peut faire une demi-phrase vraiment complète, hein. Ton prompt il peut quadrupler juste parce que partout où il peut il te rajoute des attributs comme ça. Alors je sais pas si ça a continué, je sais pas si ça se trouve ils l'ont testé une semaine. Il y a plein de gens comme moi où, parce que ça a des conséquences, hein. C'est pas juste ouin, ça me fait chier parce qu'il suit pas mon prompt. C'est juste que moi, j'étais pas en train d'être sur une interface publique à générer des images pour mes réseaux sociaux. C'est pas ça. J'étais en train de créer une application en tant que développeur pour un objectif très précis où j'avais besoin de maîtriser parfaitement mes prompts et d'avoir mon interaction avec mon
chat GPT. Quand il t'invente des trucs, ça te foire tout, quoi.
Ça me faisait tout exploser. Parce que, comme ça, tout seul...
T'avais pas moyen de le bypass désactiver. Avec un prompt en mode « n'invente rien ».
J'ai utilisé le truc recommandé par OpenAI pour ne rien inventer. C'est-à-dire qu'ils te donnent la solution, ils te disent.
Okay.
Ils te donnent un pré-prompt à utiliser pour que tu n'aies aucune altération de ton prompt. Et malgré ça, J'avais mes petits potes de chez OpenAI.
Et je me demande si c'est parce que ils ont pas fait un dataset et tout, et ils se sont dit ok, nos datasets sont vraiment trop biaisés. Et au lieu d'améliorer leur dataset, parce que peut-être c'est compliqué et tout, je sais pas.
Évidemment qu'ils
se sont dit, on fait un patch avec un pré-prompt.
Ouais, j'ai une réponse à ça.
C'est évident que c'est
c'était
ça.
C'était à l'époque de DALL-E 1 ou 2, donc vraiment les premières versions. Tout de suite, quand c'est sorti, les gens ont dit, bah, effectivement, on retrouve les mêmes biais de représentation, il n'y a pas assez de diversité, des choses comme ça. Et le premier patch qu'ils ont appliqué, c'était littéralement, à la fin de ton prompt, rajouter des mots-clés. Femme, homme, etc.
Et
on s'en est aperçu parce que les personnes ont trouvé une astuce qui est géniale. Ils ont écrit photo d'une personne avec un panneau où il est marqué. Et comme OpenAI rajoutait au bout du prompt des mots, ça générait un panneau où les mots étaient liqués sur le panneau. Donc si tu écris photo d'une personne tenant un panneau où il est écrit, tu devrais rien avoir. Et parfois, tu avais des panneaux où c'était écrit
Black Woman.
Ouais, voilà. Et donc, on a su qu'ils faisaient ça, que ça avait été leur patch pour éviter d'avoir des biais et essayer de corriger ces problèmes.
Il faudrait qu'ils changent leur dataset, enfin qu'ils améliorent leur dataset. En fait, c'est normalement comme ça qu'on fait.
Exactement. C'est-à-dire que la question, c'est pas de dire c'est très très chiant qu'il y ait une représentation dans les IA, c'est pas ça.
Ils rajoutent du biais en fait.
Déjà, je suis un putain de... Oui, exactement. C'est que je suis un putain de développeur en fait, donc donne-moi du contrôle, tu vois. Genre, laisse-moi faire ce que je veux. Genre.
J'imagine, tu racontes l'histoire précise d'une personne qui est connue, qui mesure 1m80, qui a les cheveux noirs, etc. Tu veux mettre des photos qui correspondent précisément à ce que tu veux. Quoi.
Et là, t'as des personnages qui apparaissent. À un moment, j'ai cru devenir fou. Hein. Mais c'est vrai. Non, mais imagine, tu fais ton appli. Au bout de la cinquième fois, j'étais en mode, mais d'où viennent ces gens? Comment c'est possible?
Alors, c'est une question très bête, mais pourquoi tu t'es pas dit que t'allais faire ça avec Stable Diffusion?
Parce que, actuellement, je trouve qu'en termes de qualité et de suivi du prompt et de génération notamment de bouts de texte, etc.
Ah oui, si DALL-E 3, tu veux générer du texte, c'est mort.
DALL-E 3 a des avantages qui sont vraiment assez incroyables.
Ils sont vraiment forts d'ailleurs, bon, rien à voir, mais c'est les seuls à être forts sur le texte, quoi.
Ouais, DALL-E 3, ouais.
Midjourney, c'est un peu
Midjourney, la version 6, c'est un peu meilleur. Mais bon.
Ouais, okay.
Aujourd'hui, on ne parle pas d'image, normalement. On parle de ça. Donc, tout ça pour vous dire, la conclusion, c'est que c'est pas absurde du tout, cette explication du fait que certains modèles perdent en qualité. C'est-à-dire, c'est raisonnable d'imaginer que tout ce qui est barrière de sécurité, garde-fou de sécurité, ait vraiment eu un impact sur les perfs. Mais, il y a une autre explication. Une autre explication qui est même encore plus séduisante et plausible de mon point de vue. Qui est que le problème qu'a OpenAI actuellement, et que n'ont pas tous les modèles open source qui cartonnent et qui marchent super bien, c'est qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Mais genre, vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Qu'ils ont eu très rapidement. Alors on sait qu'ils ont énormément de fonds de Microsoft, toute une infrastructure pour déployer ça. Mais de manière générale, on sait qu'un des gros problèmes d'OpenAI, c'est d'être rentable et c'est d'arriver à financer le coût hardware monumental que représentent ces fermes de GPU qui servent ChatGPT 3 et 4 à la planète entière. Une des bonnes raisons qu'on a de croire que c'est très très cher de faire ça, c'est que depuis un an et demi, il n'y a pas eu beaucoup d'autres GPT 4, mine de rien. Donc, la théorie comme quoi GPT-4 coûte un putain de bras à faire tourner et que OpenAI serait complètement à perte, mais genre bien encore plus qu'on se l'imaginerait, est plausible. C'est pas impossible que ce soit vraiment très 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 cher. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'as un produit qui est extrêmement coûteux, utilisé par des millions et des millions de gens avec des pics grands comme ça? C'est que tu cherches les solutions que t'as à ta disposition pour baisser le coût de tes inférences. Donc en gros, pour faire en sorte que ton ordinateur il ait besoin de moins de puissance de calcul pour générer un certain nombre de tokens et répondre à ton chat. Parce que la problématique, c'est toujours de maximiser combien d'utilisateurs en simultané vont pouvoir interroger GPT-4 qui tourne sur une ferme de serveurs. Vas-y, avant que je...
Non, c'était... Est-ce qu'on parle que de GPT-4 ou aussi de GPT-3, 3.5?
On parle de tous les modèles propriétaires qui ont suffisamment d'exposition pour avoir des gros problèmes de délivrabilité et d'arriver à correctement servir leurs millions et dizaines de millions d'utilisateurs.
J'allais dire, c'est dommage de payer pour un truc qui marche moins bien. Non, mais du coup, ça concerne tous les...
Ça concerne tout. Et donc, actuellement, Ce que tu peux faire pour augmenter les performances de ton serveur, c'est genre utiliser du code plus efficient, des meilleurs modèles. Actuellement, par exemple, la plupart des serveurs qui fournissent des chatbots, ils utilisent VLLM. C'est le projet par excellence qui permet de servir avec la meilleure efficacité possible beaucoup d'utilisateurs. Bon, mais ça, c'est bon, on va dire. C'est l'état de l'art, il est ce qu'il est. Tu peux pas faire mieux que ce qui existe actuellement, a priori. Une autre technique qui est possible, c'est de réduire la taille des modèles. Donc, c'est-à-dire que tu prends ton modèle de base que tu as entraîné. Donc, faut s'imaginer que c'est une grande matrice de nombres et tu vas réduire sa taille. Alors, tu pourrais te dire, bah non, mais c'est con. Genre, si tu divises par deux la taille de GPT-4, par exemple, j'imagine qu'il deviendrait deux fois plus bête ou... Enfin, intuitivement, on se dirait ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que faut s'imaginer que ces modèles-là, donc ces grandes matrices de nombres, en fait, c'est des matrices de nombres flottants. Donc, en général, c'est des flots 32 ou des flots 64, je crois, suivant si t'es à l'entraînement ou l'inférence, etc. Bon, ça dépend un peu des architectures. Mais faut se dire que ce sont des nombres à virgule, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de virgules pour une très, très grande précision. Si je vais vous rappeler vos cours de maths de collège ou de lycée, mais l'écriture scientifique, à savoir le fait d'écrire un nombre sous la forme 1, plein de virgules, fois 10 puissance quelque chose, et ben en fait, ça, c'est comme ça qu'on stocke les nombres sur un ordinateur. Les nombres flottants, justement. Je rentre pas dans plus de détails. La seule chose à comprendre, c'est que cette matrice de nombres, si on veut diviser sa taille par deux, on peut par exemple la réduire en lui enlever de la précision. Donc au lieu que tes nombres à virgule ils aient genre 32 chiffres après la virgule, eh ben tu vas passer à 16 par exemple. Et du coup, t'es pas en train de diviser par deux ton modèle, tu vois, c'est pas ça, c'est juste que tu réduis sa précision et globalement ce qu'on observe, c'est que ça change quasiment pas ses performances. Surtout si tu réduis, par exemple, de 32 bits à seulement 16. Là, on observe des changements qui sont en fait assez limités. Ce processus, on appelle ça de la quantisation. Et c'est un truc dont le grand public a surtout, et moi aussi, entendu parler avec l'arrivée des modèles open source. C'est qu'en gros, si tu peux avoir un modèle de 32 milliards de paramètres, peut-être que normalement, il devrait faire une trentaine de gigas, par exemple. Mais grâce à de la quantisation, tu vas pouvoir réduire la précision de ces poids et passer, par exemple, en FP16 ou en Q8 ou en Q4 ou Q3, Q2, Q1, etc. Et en gros, c'est juste des nomenclatures qui ont été créées pour décrire à quel point tu fais des concessions sur la précision de tes poids.
Justement, l'impact est limité. Il n'y a pas un peu un côté théorie du chaos où un peu de manque de précision, plus un peu de manque de précision, à la fin, ça s'accumule?
Eh ben, exactement. En gros, à un moment, on pensait que c'était quand même assez limité, mais en fait, c'est possible que ce soit quand même un trade-off. Un trade-off qui serait pas, genre, catastrophique, mais qui existerait quand même. En fait, des gens ont fait des tests sur le niveau de perplexité des modèles. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est juste une manière de savoir si un modèle est performant et s'il sait prédire de manière correcte la suite d'un texte. Et ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont créé des courbes pour comparer les différentes versions quantisées pour savoir si mon modèle qui fait 30 gigas, je le passe en 24 gigas ou en 18 gigas ou en 15 gigas, à quel point l'impact est sévère en fait au niveau de la qualité. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que typiquement, si tu utilises une représentation sur 8 bits, t'es très très proche de la qualité originale. Si tu passes en 4, pour le coup, ça va être largement dégradé. Et à 2, ça va être bien pire que ça, etc. Donc, on a une idée vague de l'impact de la quantisation sur les performances. Mais ce qui est à peu près certain, pour le coup, c'est que au niveau de la performance, t'as des gains qui sont vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en nombre de tokens générés par seconde et en quantité de mémoire nécessaire, c'est génial. Genre, toi, avec ton GPU, par exemple, si t'as une 4090 avec 24 gigas de mémoire vive sur le GPU, tu vas pouvoir faire tourner des modèles qui font 70 ou 34, plus de manière plus réaliste, 34 milliards de paramètres, sans problème, grâce à la quantisation. Donc, okay. C'est, en fait, c'est génial. C'est vraiment trop, trop bien.
C'est bien mieux de prendre un gros modèle quantisé.
Exactement.
Quantisé, je ne sais pas si ça se dit, mais qu'un plus petit modèle avec moins de paramètres, mais qui n'est pas quantisé.
Exactement. C'est vraiment exactement ça. Et dans tous les benchmarks, ça s'observe.
Dans les versions récentes de ChatGPT, je sais qu'ils ont sorti GPT-4 Turbo, etc. Est-ce que c'est ce genre d'optimisation qu'il y a derrière ?
Eh bien, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Dans les faits, personne ne sait de quelle manière comment l'architecture et le back-end de OpenAI fonctionnent et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur modèle, etc. Mais c'est une théorie très solide que, effectivement, les versions turbo, les versions récentes, etc., pour pouvoir les déployer et les servir à énormément de gens, ils passeraient peut-être par de la quantisation. Alors, attention, c'est pas pour ça que tu peux pas faire un modèle à la fois performant et précis. Il y a des gens qui ont imaginé des stratégies pour réduire la précision, par exemple, de certaines couches du modèle, mais pas de toutes. On va pas rentrer dans l'architecture de l'IAMA parce que c'est quand même un peu compliqué, c'est l'histoire de transformers et tout ça. Mais en gros, il y a tu peux avoir certains layers, certaines briques que tu vas garder à leur précision complète, mais d'autres que tu vas quantiser et réduire en précision. Et tout ça te permet de globalement avoir le meilleur des deux mondes, à savoir de la super performance et en même temps quelque chose de relativement précis. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que quantisation égale perte de précision égale perte de performance. Et c'est hyper traître parce que tu peux garder le même nom, tu vois. OpenAI, ils te disent qu'ils te donnent GPT-4, mais en fait, dans la version web, par exemple, c'est pas vraiment GPT-4, c'est la version quantisée à mort, qui est hyper rapide et qui marche genre 5% moins bien ou 8% moins bien, tu vois. Ça peut être de cet ordre-là. Pas assez pour que ce soit démontrable, vraiment, mais suffisamment pour que on s'en rende compte et on se dise, c'est quand même bizarre qu'ils sont. On a l'impression qu'il n'est pas bien réveillé, tu vois. Et voilà. Il y a une dernière explication qui est un peu troll et que je vais vous garder pour la fin, qui est que on pense que GPT-4 et de manière générale les LLM sont sensibles à des facteurs externes. Donc par exemple, si dans le prompt système il y a écrit on est au mois de janvier, il y a des chances, enfin ça a été mesuré dans certains papiers, qui performe moins bien que si tu lui dis que t'es en mai, par exemple, ou à une autre période de l'année, ou peut-être que de manière générale, les gens sont plus motivés, travaillent mieux.
J'ai pété à zone soleil, visiblement.
Il a appris de nous, quoi. Genre, ben, en hiver, il a la flemme.
Exactement. Donc, c'est une autre théorie qui permet de l'expliquer. Bon, honnêtement, c'est plutôt pour la vanne, parce que j'ai pas l'impression que ça a été démontré sur des très, très grandes bases de données et que ce soit vraiment très très fiable comme résultat, mais c'est une des dernières explications. Donc voilà, toutes les possibilités qui pourraient expliquer que globalement, si vous avez l'impression chez vous que GPT-4 devient moins bon...
Ça a fait des super articles.
Ouais, ça a fait des bons articles, exactement. Si vous avez eu cette impression derrière votre interface, vous n'êtes pas fou. Il peut y avoir des très bonnes raisons que, effectivement, ce soit moins bien.
Mais est-ce que si on reprend l'exemple du « on est obligé de faire parler ChatGPT plus qu'avant », lui dire « non, mais je veux vraiment que tu me répondes et tout », ça pourrait venir de la quantisation c'est compliqué de savoir, en fait.
C'est compliqué de savoir exactement quel est l'impact. Ce que tu peux observer, toi, chez toi, c'est que si tu prends un modèle avec précision complète, et que juste après tu lances une version extrêmement quantisée où vraiment t'as réduit les nombres après la virgule au maximum du maximum, ce que tu vas observer comme comportement, c'est juste que d'un côté t'as l'impression de parler à une personne en seconde et de l'autre à un enfant de 8 ans, tu vois.
À ce point-là.
Mais en gros, c'est que juste tu constates qu'il devient incapable et juste que il répond à côté de la plaque. C'est un peu la même sensation étrange que t'as entre GPT-4 et GPT-3.
Ça peut se résumer en t'as une certaine quantité d'informations qu'il a appris. Forcément, si tu le soques dans un modèle qui fait 4 gigas ou qui fait 2 gigas parce que t'as réduit, à un moment, il faut bien que l'information...
Elle disparaisse, exactement.
Voilà, il faut qu'elle parte quelque part.
C'est très perturbant parce que c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que tu peux diviser par 2 en gigas la taille de ton modèle et avoir quasiment aucune perte. Ce qui laisserait penser qu'il y a beaucoup de données perdues peut-être dans les versions non quantisées. Mais ce que le plus fascinant dans tout ça, c'est à quel point on n'y comprend rien. C'est-à-dire que c'est un domaine de recherche actuellement. Il y a des papiers qui se penchent là-dessus justement sur voilà à quel point on maximise vraiment ces modèles-là. Est-ce que un modèle qui fait 100 gigas, à quel point on utilise vraiment chaque partie de chaque couche à son plein potentiel? Et globalement, la réponse pour l'instant, c'est franchement, on sait pas trop.
Ça, en fait, c'est un peu un domaine où on est obligé de rétro-engineering ce que les gens trouvent en IA. Et c'est pas un truc qu'on avait l'habitude de faire en informatique. Mais dans d'autres secteurs, en biologie, on essaye de nous analyser en permanence. Mais là, en fait, on fait ça avec les IA, alors qu'à la base, le code, c'est nous qui l'écrivons, donc on n'a pas besoin de le faire. Et en fait, du coup, maintenant, ils sont obligés de faire ça.
Mais la conclusion qui me laisse à la fois rêveur et frustré, c'est que actuellement, on sait que le meilleur des modèles, il existe probablement, mais personne n'y a accès. Vous n'y avez pas accès, je n'y ai pas accès.
Parce ça m'a le panne, peut-être.
Exactement. Non, mais il existe une version de GPT-4 qui est la version de base, donc le modèle de fondation. Puisque c'est toujours comme ça que ça marche, tu crées un modèle de fondation et après, dessus, tu entraînes le concept du chat, de l'assistant.
Il se trouve GPT.
Exactement. Et donc, ils ne l'ont jamais sorti. Il n'y a aucune version actuellement de GPT 3.5 Turbo. Je crois qu'ils l'ont peut-être sorti celle-là, je ne sais plus. Il n'y a aucune version de GPT-4 du modèle de base qui a été sorti. Et l'explication de tout le monde, c'est que c'est juste, ce serait trop dangereux, en fait. Genre,
Et puis c'est pas leur
comme
modèle.
C'est ça, comme ils n'ont pas implémenté leur couche de sécurité, etc. Probablement que c'est trop dangereux, tellement c'est le meilleur modèle de la planète, invaincu depuis un an et demi, ce qui est quand même fou quand on y réfléchit, qui est bien de choses sur le serveur d'OpenAI et qu'on ne peut pas utiliser.
C'est pour ça qu'ils sont si bons, en fait. Ils ont un joker en interne, une IA, mais incroyable, qu'ils gardent juste pour eux.
Non, mais c'est, franchement, c'est pour ça que je dis qu'à la fois...
Ça fait un an et demi, GPT-4.
Je crois,
quand même pas.
Oh, je pense qu'on n'est pas loin.
Oui, si.
Non, ils ont fêté leur un an il y a un ou deux mois.
Ah oui, ok, c'était 3.5 il y a un an et demi.
Ah, mais quand même.
Ok. Ouais, un an quand même.
Allez vite quand même.
C'est pour ça que je disais, c'est un peu déprimant parce que on n'y aura jamais accès probablement. Et un des trucs que j'espère, c'est que si jamais OpenAI crash par exemple ou il banqueroute ou je sais pas, Sam Altman il se fait encore virer, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va juste en soum-soum prendre le modèle sur un disque dur et le mettre en torrent.
S'il vous plaît. C'est possible techniquement.
C'est-à-dire.
Mais ça, il doit être très gros, non?
Probablement.
Ouais.
Mais alors, les rumeurs disent que ce serait un modèle MOE, donc comme Mistral. Et si je dis pas de conneries, ce serait genre 8 fois 100 milliards de paramètres, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'il me semble que c'était de cet ordre-là.
Ok.
La récente estimation d'après un leak, entre guillemets, donc à prendre avec des grosses pincettes, ce serait un truc qui ferait 8 fois 100, à peu près 100 milliards de paramètres. Donc c'est le plus gros qui existe probablement dans le monde. Mais ça tient sur un disque dur.
Voilà, sans clé USB, tu pars pas avec un disque dur, je pense ça passe.
Ok. Si on revient sur 3.5 Turbo, il est sorti en open source?
Non.
Ah ok.
Non. C'est fake news, info chat.
Ok. On est d'accord qu'il n'y a aucun modèle d'OpenAI qui est open source?
Aucun modèle de chat, non. Whisper.
Ah oui, bien sûr.
Mais ça évolue, enfin peut-être pas chez OpenAI, mais typiquement le premier Yama, on y a eu accès parce qu'il a leak, on ne sait pas trop.
Non.
Maintenant on y a.
Non, ils l'ont mis en open source, un accès limité.
Je crois que t'avais accès, mais il fallait être chercheur ou quoi, c'était très, très limité. Et le suivant est vraiment sorti.
Ah oui, GPT 1 et 2, oui, complètement.
Non, ce que je veux dire. C'est qu'il y a vraiment, c'était pour une catégorie de gens et je pense qu'eux-mêmes savaient en fait que.
Quand vous parlez de quel modèle là ?
Yama. Le premier Yama, avait un accès très limité. Le deuxième, ça a été très assumé open source.
Ça d'ailleurs, est-ce que c'était comme tu le dis, ils le savaient et tout, machin, c'était prévu ? Ou ça a été vraiment une grosse boulette et ils ont changé de. Ils ont fait, allez, on passe full open source, j'y crois moyen.
Moi, j'y crois moyen. Ils sont trop intelligents pour croire que donner accès à un modèle à 2000 personnes ne voulait pas dire le donner accès à la planète entière, en fait. Genre, c'est.
Ah, parce que la fuite, c'est direct. En fait, c'est suite.
C'est juste qu'il fallait remplir un formulaire pour.
D'accord. Voilà, pardon, j'avais pas bien compris.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.